France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Un 13-14 spécial, puisque nous sommes en direct du restaurant La Belle Équipe au cœur du 11e arrondissement de Paris. Ici, le 13 novembre 2015, les terroristes islamistes ont semé la mort.
Malgré le choc, malgré la déflagration, malgré les drames, des amis perdus, puis l'horreur de tout ce qui s'est passé, on est resté fort et soudé. On s'est toujours dit, toujours là, toujours présent, toujours debout. Venir à La Belle Équipe pour déjeuner, boire un café, boire un thé, c'est une évidence.
10 ans après, La Belle Équipe, comme les autres restaurants attaqués, comme la salle de concert du Bataclan, est toujours là. Cela a été un combat. Grégory Rebenberg, son patron, et Bart Vissen, qui va prendre le relais dans quelques jours, vont nous le raconter. Combat aussi pour faire vivre une mémoire très différentes partout en France.
On a 3 villes en région, Caen, Metz, Montpellier. On s'aperçoit que le mot « peur » est surreprésenté dans les 3 villes de province, comme le mot « guerre » d'ailleurs, alors qu'il est sous-employé dans le cercle 1, c'est-à-dire les personnes qui sont directement exposées.
La présidente du futur musée mémorial du terrorisme, Elisabeth Pelcé, s'exprimera pour la première fois depuis l'annonce de son ouverture dans quelques années à Paris. Nous nous demanderons aussi comment parler de cette histoire aux enfants et comment la fiction peut nous aider. La comédienne Alix Poisson, à l'affiche de la série événement Des Vivants, sera avec nous également. Sans oublier toute l'actualité de ce vendredi. Bonjour Céline Asselot.
Bonjour Jérôme.
À commencer par le gouvernement qui condamne les incidents d'hier soir à la Philharmonie de Paris.
Oui, totalement irresponsable, dit Laurent Nunez. La violence n'a pas sa place dans une salle de concert. Pour Rachida Dati, 4 personnes ont été interpellées pour avoir perturbé le concert de l'Orchestre Philharmonique d'Israël. On parlera aussi du Mercosur. Emmanuel Macron a désormais un avis positif sur l'accord de libre-échange, mais les députés comme le gouvernement sont divisés. À suivre aussi une découverte scientifique importante pour mieux comprendre les rechutes dans le cancer du sein. Et puis la victoire du duo Beyoula-Gravière dans la Transat Café L'Or catégorie IMOCA. On partira à la Martinique.
Et puis juste avant 14h, et puisque ce lieu est bien vivant, nous écouterons un peu de musique. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
132 morts dans Paris le 13 novembre 2015. Quand nous nous sommes demandé il y a quelques semaines avec l'équipe du 13-14, avec la rédaction de France Inter, comment parler des 10 ans de ces attentats, l'évidence a été assez rapidement de venir ici, en direct, au cœur du 11e arrondissement, pour tout à la fois rendre hommage, mais comprendre aussi comment les lieux mitraillés ce soir-là étaient restés vivants. Nous sommes alors venus vous voir. Bonjour Grégory Rebenberg.
Bonjour.
Merci de nous accueillir ici, chez vous, à La Belle Équipe, le restaurant, ce restaurant que vous dirigez et qui fait, m'avez-vous dit il y a quelques minutes, partie de l'histoire nationale. C'est pour ça que vous nous ouvrez les portes aujourd'hui.
Effectivement, ça va bientôt faire 10 ans. Et oui, depuis ce jour-là, quelque part, La Belle Équipe ne m'appartient pas qu'à moi. Elle appartient à l'histoire du pays, parce que La Belle Équipe fait partie des lieux, des endroits qui ont été attaqués ce soir-là. Et ce soir-là, c'est la France. Et puis, ce que nous sommes, ce qu'on est, nos modes de vie, ce qu'on aime faire, notre civilisation même qui a été attaquée. Donc oui, je m'estime avoir un devoir de vigilance pour que ce lieu reste toujours aussi un lieu de, enfin bien vivant, mais de mémoire, et qu'il reste ce qu'il est, surtout un lieu de vie. Voilà.
Un lieu de vie. Le service est en cours. Des gens, des jeunes autour de nous dans ce restaurant qui est ouvert en terrasse et en salle. Et nous nous trouvons entre les deux. Quel est l'endroit où nous nous trouvons précisément,
alors, pour
Grégory?
Être précis, nous sommes au cœur du 11e arrondissement et nous sommes à l'angle de la rue de Charonne et de la rue Féderbe. Effectivement, on est techniquement dans ce que nous appelons le patio, hein, donc qui est tout en verre autour avec un bar ouvert vers l'extérieur et donc au cœur du 11e.
Ce lieu que vous avez reconstruit avec en face de vous, ce qui pour moi est une œuvre d'art, est-ce que vous pouvez nous la décrire, Grégory, avec notamment ces 3 coquelicots. Le coquelicot, c'est l'emblème de La Belle Équipe.
Effectivement, on a voulu faire... j'ai tenu vraiment à... Il fallait mettre les noms quelque part de ceux qui sont partis, mais on voulait quelque chose de plutôt sobre. Effectivement, le coquelicot, c'est plusieurs symboles. C'est l'éphémère, c'est la beauté, c'est la délicatesse, mais c'est aussi la force. Et là où il y a des coquelicots, c'est que souvent la terre a été bouleversée, blessée. La vie y a été fauchée. Et c'est vrai que dans les tiges de ces coquelicots, vous avez tous les prénoms entrelacés de ceux qui sont partis. Et ça symbolise aussi la renaissance et la vie. Voilà, là où il y a des coquelicots, la vie repousse fortement. C'est aussi un symbole de résilience.
21 prénoms, dont celui d'Oda, qui était la directrice.
Oda, Jamila, Ludo et...
Jamila qui était votre ex-compagne, qui est la maman de votre fille Tess.
Tout à fait, voilà.
Ludo et les autres qui étaient là ce soir-là, Anne-Laure, René, Véronique, je vais tous les citer, Cyprien, Lacrimoria Mariana, Cécile, Romain et Lamia, Justine, Romain, Micheli, Cédric, Thierry et Marie-Aimée, Hyacinthe, Guillaume, Alima et Victor. Victor dont le papa José est venu nous voir et il est à côté de nous quand il a entendu que l'émission se déroulait ici. Il a évidemment poussé la porte de la belle équipe qui est donc toujours bien ouverte, bien vivante, on l'entend en direct, qui va continuer sa vie avec Bart Vicens à la manœuvre. Bonjour Bart.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous étiez déjà là il y a 10 ans. Vous étiez serveur depuis quelques mois, je crois, quelques semaines à peine. Ce lieu, qu'est-ce qu'il représente dans votre vie ?
Moi, ce lieu représente mes premiers pas dans la restauration. C'est mes premiers cafés. C'est là où j'ai appris à tenir mon premier plateau. Et j'y suis tout particulièrement attaché. Et la preuve étant que j'y reviens 10 années après, où de l'eau a coulé sous les ponts. Et je tenais à revenir ici pour avant tout peut-être montrer que ça reste aussi un lieu de vie chaleureux et qui a encore beaucoup de choses à donner.
On va parler ensemble de cette reconstruction avec tous les deux, de l'après, de vos projets aussi ensemble d'ici 14h, parce que vous allez peut-être prendre un peu plus de distance, Grégory, dans les prochaines semaines, et vous, Bart, il y a cette reprise de la belle équipe, et puis il y a des études aussi, de psychanalyse en cours, des projets, la vie qui est là, on parle aussi de la mémoire, comment elle se transmet à travers ce musée mémorial qui va voir le jour à Paris, comment elle se transmet partout en France aussi avec les fictions, et notamment cette série des vivants que vous pouvez voir en ce moment. Tout cela dans quelques minutes. Avant cela, Céline Asselot, on va préciser toute l'actualité de ce vendredi, notamment donc ces 4 personnes interpellées hier soir à la Philharmonie de Paris.
Oui, la grande salle de spectacle du nord-est de la capitale qui accueillait un concert de l'Orchestre Philharmonique d'Israël. Concert interrompu à plusieurs reprises par des spectateurs qui ont notamment brandi des fumigènes, des violences, ont éclaté avec d'autres personnes qui ont tenté d'intervenir. 4 personnes donc ont aussitôt été interpellées, on va y revenir. Parlons d'abord des réactions nombreuses avec vous, Xavier Domani, bonjour.
Bonjour.
À commencer par celle de Rachida Dati, qui condamne fermement ces incidents.
Oui, aucune violence, aucun acte antisémite, aucune atteinte aux artistes ne peut avoir lieu dans une salle de spectacle ou de concert, écrit la ministre de la Culture. Elle en appelle au respect de la liberté de programmation et de création, ainsi qu'à des sanctions exemplaires. De son côté, l'Orchestre Philharmonique d'Israël rappelle dans un communiqué qu'il représente fièrement la culture israélienne à travers le monde, avec l'objectif de jouer une musique qui rassemble et dénonce, je cite, des extrémistes qui ont tenté de perturber le concert.
Et il faut rappeler, Xavier, que la tenue de cet événement avait suscité beaucoup de critiques.
Oui, la Philharmonie avait d'ailleurs espéré jusqu'ici qu'il puisse se tenir dans les meilleures conditions possibles. Des militants pro-palestiniens demandaient son annulation et la CGT Spectacle, sans aller jusqu'à appeler au boycott, dénonçait l'absence de remise en contexte sur la guerre menée par Israël à Gaza. Guylain Gauthier, son secrétaire général.
C'est malheureusement pas tellement une surprise. On avait prévenu la direction de la Philharmonie, mais aussi le ministère de la Culture, que la venue de l'Orchestre Philharmonique d'Israël posait de grosses difficultés dans la profession au-delà par rapport à la situation internationale.
Un incident survenu en dépit du dispositif policier mis en place à l'extérieur comme à l'intérieur de la Philharmonie. Cela montre en tout cas la difficulté de plus en plus grande pour les artistes israéliens de se produire en dehors de leurs frontières. En septembre, un festival belge a annulé un concert qui devait être dirigé par le même chef d'orchestre, Lahal Shani, dont les prises de position après le 7 octobre en soutien de l'armée israélienne ont divisé le milieu. Cet été, la compagnie de danse, la Batsheva, a été contrainte d'annuler sa tournée en France. Les appels au boycott sont aussi récurrents pour les concerts du chanteur franco-israélien Amir.
Merci Xavier Domani, Service Culture Média, disons-nous. Maintenant des auteurs présumés. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
4 personnes interpellées, je le disais, que sait-on sur leur profil ?
Avec un profil en particulier pour l'un des 4 militants placés en garde à vue hier soir, un jeune homme de 20 ans qui est connu des services de renseignement intérieur puisqu'il fait l'objet d'une fiche S surveillée en raison d'actions contestataires liées à la mouvance de l'ultra-gauche et non pas de fiche S pour une idéologie islamiste radicalisée. Les 3 autres suspects interpellés ne sont pas connus des services de police mais ils avaient le même avocat. Ils ont tous refusé d'être signalisés comme disent les policiers. Refus de prise d'empreinte par exemple, ce qui porte généralement la marque des activistes de l'ultra-gauche. ultra-gauche. Le parquet de Paris a fait savoir ce matin que 3 personnes sont poursuivies pour participation à un groupement en vue de commettre des violences ou dégradations. Délit passible d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, en l'occurrence avec des fumigènes et des boules puantes. Et que la 4e personne est en garde à vue pour organisation d'une manifestation non déclarée. Délit qui fait encourir 6 mois de prison et 7 500 euros d'amende. Une 40aine de militants sont intervenus hier pour perturber le concert. En dehors des gardes à vue, il y a eu également de nombreuses verbalisations.
Emmanuel Leclerc, merci. Service politique, service police-justice de France Inter. Un dernier mot de l'actualité politique. Marine Le Pen pour le Rassemblement National parle d'actes intolérables, appelant à une réponse judiciaire exemplaire. Manon Aubry, de son côté, eurodéputée La France Insoumise, estime que cet orchestre représente l'État israélien. Pour que ce type d'incident ne se reproduise pas, dit-elle, il faut que le gouvernement israélien arrête de massacrer tout un peuple. Fin de citation. Et pendant ce temps, la situation sur le terrain dans la bande de Gaza est au cœur d'un projet de résolution porté par les États-Unis à l'ONU. Le texte prévoit de déployer une force internationale dans l'enclave palestinienne. Elle arrivera sur place très bientôt, affirme le président américain Donald Trump. Les États-Unis qui sont désormais engagés dans une rivalité navale avec la Chine, notamment autour de Taïwan. Et c'est pour cela que Pékin vient d'annoncer la mise en service de son 3e porte-avions. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
Correspondant de France Inter à Pékin. Pékin qui veut moderniser sa flotte.
Voilà le message de propagande diffusé tout à l'heure par la télévision chinoise lors de la cérémonie sur l'île de Hainan. On entend Xi Jinping s'adresser aux pilotes de chasse qui vont travailler sur le nouveau porte-avions. « Vous êtes tous des héros », lance le président chinois. Manière de montrer que ce navire est une étape majeure dans la modernisation de l'appareil militaire de la Chine. Le nouveau porte-avions, le Fujian, va compléter les 2 premiers, devenus aujourd'hui vieillissant, le Liaoning notamment, acheté à l'Ukraine dans les années 2000. Avec le Fujian, la Chine devient le 2e pays au monde avec les États-Unis à équiper un porte-avions de catapultes électromagnétiques, des systèmes qui permettent de lancer des avions plus fréquemment, à des vitesses plus élevées et sur des distances plus courtes. Cette mise en service est une pression supplémentaire en mer de Chine méridionale, où Pékin, on le sait, ne cache plus ses prétentions territoriales, et surtout une pression pour Taïwan. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si la Chine a choisi de donner le nom de Fujian au nouveau porte-avions. C'est la province chinoise qui est située juste en face de Taïwan.
Sébastien Berriot à Pékin pour France Inter. Emmanuel Macron, il est au Mexique aujourd'hui après avoir fait étape au Brésil pour le sommet des dirigeants sur l'urgence climatique. Le chef de l'État vient resserrer les liens avec le Mexique et sa nouvelle présidente. Et dans le cadre de ce déplacement que le chef de l'État s'est exprimé sur l'accord sur le Mercosur. Je suis plutôt positif, dit-il, alors que la France a longtemps combattu cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud. Le président affirme avoir obtenu des garanties de la part de Bruxelles. Mais la FNSEA dénonce un reniement total, une rupture avec l'agriculture française. Quant à la classe politique, elle ne semble pas non plus convaincue. Bonjour Jérôme Valle.
Bonjour.
À commencer par la ministre de l'Agriculture.
Oui, pas vraiment sur la même ligne. Emmanuel Macron et sa ministre Annie Genevard, pour qui, malgré les avancées, le compte n'y est pas. C'est ce qu'elle a écrit ce matin sur le réseau social X. Et il y aura aussi une explication à l'Assemblée nationale avec un débat et un vote. Ce sera le 27 novembre avec une proposition de résolution portée par la France insoumise. Ces dernières semaines, Emmanuel Macron avait répété que l'accord n'était pas acceptable en l'état, avant donc d'affirmer cette nuit que les clauses de sauvegarde étaient suffisantes. Intolérable pour l'insoumise, Aurélie Trouvé.
Le président de la République est en train de complètement lâcher les agriculteurs et la nation. En réalité, il est en train d'accepter un accord avec des soi-disant clauses de sauvegarde dont tout le monde sait qu'elles n'ont pas d'efficacité telles qu'elles sont actuellement sur la table. Il n'y a aucun accord de libre-échange avec le Mercosur qui soit positif.
Mais cette position n'est pas l'apanage de la gauche. Les députés LR, eux aussi, sont remontés et réclament un vote. Ils l'ont écrit au Premier ministre. Abandon de souveraineté, mépris des agriculteurs, affirme-t-il, alors que, rappelons-le, la ministre de l'Agriculture dont on parlait, Annie Genevard, est issue de leur rang. Le RN s'est également élevé contre l'accord. Bref, aujourd'hui, dans l'hémicycle, il existe une majorité pour pourrait exiger son abandon, mais selon leur bord, les députés oseront-ils voter ensemble sur un même texte? La question est toujours en suspens.
Merci Jérôme Val. Service politique de France Inter. On apprend ce midi la mort d'un grand patron et haut fonctionnaire, Louis Schweitzer. C'est sa famille qui vient de l'annoncer à l'agence France Presse, ancien PDG du groupe Renault. Il était âgé de 83 ans. En pleine COP, cette décision du Conseil d'État qui confirme que CNews a bien désinformé sur le climat. La chaîne privée avait été sanctionnée par l'ARCOM, 20 000 euros d'amende, après des propos contredisants. L'origine humaine du changement climatique, elle avait formulé un recours au Conseil d'État qui donne donc raison aux ONG. Décision inédite qui pourrait faire jurisprudence, espère l'association Quota Climat. On en vient à cette avancée scientifique porteuse d'espoir dans le traitement du cancer du sein. Des chercheurs français ont identifié un mécanisme de résistance cellulaire qui explique certaines rechutes. On parle là, bonjour Victor Dolande,
bonjour.
Des cancers du sein les plus agressifs.
Oui, ce sont les cancers du sein qu'on appelle triple négatif, un peu moins de 10 000 cas par an, des cancers extrêmement agressifs, car à risque fréquent de rechute dans les 2 à 3 ans après les premiers traitements. Ce sont des femmes à qui on administre des chimiothérapies ou des immunothérapies dès que le cancer du sein apparaît. Sauf que certaines cellules tumorales vont se cacher, elles vont ensuite reformer le cancer, d'où la rechute. Ces chercheurs français ont compris le mécanisme d'adaptation, de persistance de ces cellules cancéreuses. Céline Vallot est directrice de recherche au CNRS et à l'Institut Curie.
On s'est intéressé aux interrupteurs, c'est-à-dire des interrupteurs qui permettent à la cellule de changer rapidement de costume, de changer rapidement ses capacités à tolérer au traitement. Et on a trouvé plusieurs de ces interrupteurs qui sont présents chez une série de patientes qui, à chaque fois en réponse au traitement, vont utiliser cet interrupteur pour échapper au traitement.
C'est une protéine qui joue ce rôle d'interrupteur à l'intérieur même de ces cellules, une sorte de talon d'Achille, si vous voulez, de ces cellules tumorales. Une recherche fondamentale capitale, car elle ouvre la voie de nouvelles stratégies thérapeutiques qui pourront permettre, dans quelques années, d'éviter les rechutes dans ces cancers du sein les plus agressifs.
Merci Victor Delande, spécialiste santé. Former les commerçants à l'intelligence artificielle, renforcer les aides à la création d'entreprises dans les territoires les plus fragiles. Voici quelques-unes des mesures dévoilées par le ministre des PME et du Commerce pour redynamiser les centres-villes. Serge Papin, qui refuse par ailleurs de rencontrer le patron de Chine. Il n'y a rien à négocier, dit-il, alors que la plateforme est appelée à se mettre en conformité avec la loi sous peine de blocage. Et puis c'est en Martinique que nous allons maintenant. Bonjour Emma Sarango.
Bonjour.
En direct de Fort-de-France, où il y a quelques heures, Jérémy Bayou et Morgane Lagravière ont remporté la Transat Café L'Or dans la catégorie des IMOCA.
Avec une arrivée, Céline, dans un décor apocalyptique, hein, le jour qui se lève dans un ciel gris foncé, la pluie diluvienne qui s'abat sur les deux skippers et tout d'un coup, les nuages qui s'en vont et le soleil qui revient, à l'image finalement du parcours de Jérémy Bayou au palmarès bien fourni, déjà vainqueur ici en 2011, mais qui depuis quelques années était plutôt habitué au podium avec forcément beaucoup de frustration.
Il y a des moments qui sont moins faciles, il y a des moments de doute, il y a des moments de reconstruction. Je désespérais pas que ça arrive. Hein. Je savais que c'était en moi, que c'était en l'équipe et que celle-là, elle est vraiment belle. Ouais.
Celle-là, elle est belle aussi pour Morgan Lagravière qui devient le premier marin à remporter cette Transat 3 fois de suite. Alors forcément, on a envie de lui demander quel est son secret.
Essayer d'être le plus proche possible de mes valeurs et puis de ma personnalité. Et prendre du plaisir, quoi. Voilà. Ouais, on n'est que de passage, donc autant s'amuser. Hein.
Les deux skippers qui remportent également cette Transat en battant un nouveau record, en bouclant la Transatlantique en 11 jours, 19 heures, 45 minutes et 18 secondes.
Merci beaucoup Emma Sarango en direct de Fort-de-France. C'est dans le 11e arrondissement de Paris que nous allons maintenant pour la suite de cette édition spéciale du 13-14. Jérôme Cadet, toujours en direct de la belle équipe.
Absolument, on va s'y retrouver dans un instant, juste après la météo. À tout de suite.
Ce week-end, France Inter est à Brive-la-Gaillarde pour la foire du livre de Brive.
Lilia Hassen.
Samedi 14h, au livre, etc. Avec Julien Sandrel, Philibert Hume et Laurent Godet pour aborder la question du genre en littérature.
Rebecca Manzoni.
Dimanche à 10h et à 20h, le masque et la plume pour débattre de l'actualité et des prix littéraires.
La foire du livre de Brive, c'est ce week-end sur France Inter.
Mathilde nous parle du bilan auditif de sa maman chez Audica.
Elle nous est tout le temps répété, ça devenait gênant pour elle et pour nous. Elle osait même plus dire qu'elle avait pas compris et elle se coupait de nous. Donc je lui ai pris rendez-vous pour ce bilan auditif chez Audica. Ça a été un moment formidable pour elle et pour nous, ça a tout changé en fait.
Comme Mathilde, faites confiance à Audica et ses experts pour réaliser un bilan auditif complet et gratuit. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui pour vous ou pour un proche.
Audica, expert et à votre écoute. Marque préférée des Français. Étude OpinionWay décembre 2024, bilan non médical.
Mission décarbonation avec EDF.
Rendez-vous tout à l'heure dans Mission décarbonation. Nous recevrons Bettina Laveau, responsable solutions énergétiques pour les entreprises chez EDF.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Sophie Briat.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Le temps de votre après-midi, ce sont des pluies sur la façade atlantique.
Et oui, la perturbation arrivée hier par l'ouest s'étend cet après-midi de l'Ille-et-Vilaine jusqu'au Pays Basque, alors que la Bretagne retrouve un ciel beaucoup plus variable et lumineux. Du Calvados aux Pyrénées jusqu'au Golfe du Lion, en passant par la Vienne, la Dordogne, le temps est sec. Le ciel bien lumineux également, alors que du nord à l'Île-de-France jusqu'au Massif central, les nuages sont beaucoup plus présents avec quelques averses possibles sur l'Auvergne. Le soleil, le franc soleil est bien présent jusqu'à ce soir, des Ardennes à la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'aux Alpes du Sud, tandis que l'Alsace reste sous la grisaille, ce qui entraîne des températures basses entre 5 à 7 degrés. En Méditerranée, du Var aux Alpes du Sud jusqu'à la Corse, le temps est bien perturbé et les averses sont beaucoup plus orageuses sur l'île de Beauté. Et la douceur est de mise cet après-midi. Vous avez de 13 à 16 sur la moitié nord, 15 degrés à Paris et Quimper. Et sur la moitié sud, vous avez de 12 à 19 degrés au thermomètre, 12 à Tulle, 16 à Biarritz et Bordeaux et 19 degrés à Toulon.
Merci Sophie Briat, 13h21 sur Inter.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Le restaurant La Belle Équipe, un vendredi à 13h21 au 92 rue de Charonne dans le 11e arrondissement de Paris. Voilà le cadre de ce 13-14 spécial aujourd'hui, 10 ans presque jour pour jour après les attentats du 13 novembre 2015. 132 morts dans Paris, 21 ici même, et ce lieu est bien vivant. Vous l'entendez depuis 13h derrière le micro de ce 13-14. Service en cours, restaurant ouvert, des gens qui déjeunent. De la joue de bœuf est servie, me dit-on notamment en ce moment. Voilà ce à quoi vous avez tenu, Grégory Rebenberg, c'est vous qui nous accueillez aujourd'hui ici même, que ce lieu rouvre. Vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant. Je salue Bart Vissen qui est avec nous également tout à l'heure, qui sera à la tête de cet établissement dans quelques jours et qui était là il y a 10 ans. Et puis je vous présente nos autres invités avec nous, Elisabeth Pelcé, bonjour à vous.
Bonjour à vous.
Vous êtes la directrice de la mission de préfiguration du musée mémorial du terrorisme, dont on a appris cette semaine qu'il ouvrirait à Paris.
Tout à fait. Il va ouvrir à Paris, dans le 13e arrondissement, dans une ancienne caserne. Et en fait, c'est très important qu'il soit aussi dans Paris pour tous les visiteurs qui viendront. Et c'est aussi là que seront à la fois le musée et le mémorial. Et donc le projet du musée mémorial pourra ouvrir en 2030 probablement. Et pour nous, c'est un grand pas en avant, puisque désormais on peut vraiment se projeter dans sa réalisation.
Un lieu pour raconter ce qui s'est passé le 13 novembre, mais pas uniquement. Hein. Les autres attentats qui ont touché d'autres villes de France seront également relatés.
Exactement. C'est un lieu qui va rappeler un grand pan de notre histoire sur plus de 50 ans. Avec même une rétrospective pour ne pas oublier tous les attentats dont la France a été touchée, avec des attentats qui parfois disparaissent dans la mémoire, mais que nous tenons vraiment à rappeler. Toutes les formes de terrorisme, et ça c'est important aussi, le terrorisme régionaliste, le terrorisme qui est de la vague djihadiste qu'on a connue, mais aussi le terrorisme d'extrême droite, d'extrême gauche, sponsorisé par certains États. Donc des vagues de terrorisme qui ont frappé la France pendant plusieurs années.
On va trouver dans ce musée mémorial dans quelques années, Grégory Rebenberg, des objets qui se trouvaient ici il y a 10 ans.
Effectivement, quand je suis retourné à la Belle Équipe au mois de janvier, la première fois, avant de, je dirais, tout détruire et tout reconstruire, il y avait quelques objets qui me semblaient forts, dont un chevalet en bois que tous les Français connaissent, puisqu'on le trouve dans tous nos cafés, restaurants, dans tous les bars, sur lequel il y avait marqué les heures heureuses et donc les boissons qu'on proposait à cette heure-là.
Fameux happy hour.
Oui, alors que c'est tellement plus beau en français, donc si ça peut inspirer quelques confrères, j'en serais ravi. Voilà. Et donc traversé de plusieurs balles de Kalachnikov en travers. Et j'ai trouvé ça très fort et je l'ai mis de côté. Et quelques années après, j'ai reçu un courrier en me demandant si j'avais des objets qui pourraient avoir leur place dans un musée qui ait du sens. ça semble être le cas. Voilà.
Je voudrais saluer un duo finalement qui est avec nous aussi ce midi, Alix Poisson. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Et Marie Our-Castagnou, bonjour.
Bonjour.
Marie, vous étiez au Bataclan il y a 10 ans. Vous faites partie des personnes qui ont été prises en otage pendant 2 heures et demie. Vous en êtes sortie vivante. Et vous avez ensuite sympathisé, lié des liens d'amitié avec d'autres otages ce soir-là. Et cette histoire, elle est racontée depuis quelques jours. Je crois que c'est depuis lundi à l'écran.
À l'écran, oui.
Sur France Télévisions.
Et sur la plateforme sur depuis la plateforme, le 27 octobre.
Voilà. Alix Poisson, vous incarnez Marie à l'écran. Vous connaissez bien le quartier, je crois,
Tout à
Alix
fait.
Poisson.
Oui, je connais bien le quartier parce que j'habite
vous habitez juste à côté.
À 2 rues d'ici. Tout à fait.
Pour vous, Marie, c'est la première fois que vous venez à la Belle Équipe.
Oui, j'avoue, c'est la première fois que je viens à la Belle Équipe.
Qu'est-ce que ça vous fait d'être là aujourd'hui ?
Je ne vais pas vous mentir, ça me fait vraiment quelque chose. Et c'est vrai que je suis souvent passée devant. Hein, j'habite dans le 20e, donc je suis vraiment pas loin. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu le réflexe de franchir la porte. Je suis hyper émue d'être là. Ouais.
Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui, Grégory Rebenberg ? Vous avez réussi à reconstruire la Belle Équipe. À quel moment est-ce que vous avez pris cette décision de dire ce lieu ne peut pas fermer ?
48 heures après les événements, il y a eu une marche un peu forcée. Donc on m'a forcé à venir, où on était beaucoup, venir d'un autre à 900 mètres d'ici, aller devant la Belle Équipe et tout le monde avait des rousses blanches à la main. Je suis arrivé, tous les Parisiens montaient ou descendaient la rue. Je suis arrivé devant la Belle Équipe et il y avait sur 8 mètres de long, près d'un mètre d'épaisseur de fleurs et je me suis préoccupé en premier lieu de voir tous les mots qui étaient marqués. Je voulais voir s'il y avait pas de haine et de bêtises, en tout cas à mon sens écrites, et avec des mots d'amour et d'intelligence. Et ce jour-là, alors je ne savais pas 48 heures avant, je me suis dit ça peut pas être autrement, on va réouvrir, c'est un lieu de vie, ça va rester un lieu de vie, il sera même encore plus beau, on va pas leur faire ce cadeau, nos valeurs, ce qu'on est, c'est beau, et ça doit rester debout. Voilà, donc à ce moment-là, ma décision était prise.
Bart Vissen, vous avez suivi Grégory dans ce projet immédiatement, mais il y a aussi eu des allers-retours entre vous et la Belle Équipe depuis 10 ans. Ça a été une histoire compliquée, je rappelle que vous travaillez ici depuis quelques semaines, le 13 novembre 2015.
Oui, tout à fait. C'est sûr que je me suis posé la question au début. J'ai tout de suite dit à Grégory que je ferais partie de l'aventure lorsque la Belle Équipe devait réouvrir. Il se trouve que, en réalité, j'ai senti que je n'avais peut-être pas l'énergie ou même la capacité de revenir. C'était trop tôt à ce moment-là. Et donc, j'ai continué à travailler avec Grégory sur d'autres établissements, toujours dans le 11e arrondissement. Je pense que j'ai créé un lien vraiment fort avec ce quartier.
Et village, c'est comme ça que Grégory Rebenberg l'appelle.
Et ça me parle beaucoup, le village. C'est ce que je constate quand je parle avec d'autres personnes qui me racontent, parce que chaque personne se rappelle de ce soir-là, de ce qu'il faisait à ce moment-là. Et je vois à quel point, finalement, c'était ce soir-là notre village qui a été attaqué, puis finalement, après, la France tout entière. Mais il y a une force, une vraie force, je trouve, dans ce quartier-là, qui a su surmonter ces épreuves qui ont été terribles. Je suis revenu une première fois à la Belle Équipe pour y travailler en 2019, et j'ai passé de très belles années. Là encore, c'était une période où il y a eu l'ouverture du procès, donc je me suis aperçu que j'étais peut-être pas encore prêt. C'était très lourd, trop lourd pour moi. Et maintenant, je reviens, donc 10 ans après. 10 ans après, et c'est peut-être pas un hasard, on l'a pas choisi. On s'est regardé avec Grégory en se disant, c'est fou, parce qu'à quelques jours près, oui. Ça fait vraiment 10 ans. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi revenir 10 ans après. Je pense que c'est un peu l'idée de revenir au bercail. Quand je disais que j'ai fait mes premiers pas, que j'ai servi mes premiers cafés, eh bien, maintenant que je me sens reconstruit, peut-être plus fort, j'ai envie de revenir... revenir chez moi. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Cécilia, qui est la rédactrice en chef...
Cécilia Arbonin, oui.
Lorsqu'elle m'a appelé pour me dire qu'elle était ici, elle m'a dit « Je suis chez vous ». Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché en réalité. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment chez moi.
C'est chez moi. Mmh. Il y a une inscription juste derrière. Il y a une dame qui est en train de déjeuner. Juste au-dessus d'elle, il y a ces mots. Seul l'amour est capable de nous venger des coups bas de la vie. C'est l'une des inscriptions qu'on peut lire dans ce restaurant, La Belle Équipe, ici dans le 11e arrondissement de Paris. Charlotte Piret, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, de nous avoir aidé à préparer cette émission. Vous qui étiez à l'antenne le soir du 13 novembre 2015, qui avez suivi ce long procès aussi si important, on en parlera d'ailleurs dans les prochaines minutes. Ce que nous disent Grégory et Barthes, c'est cette volonté de rester debout finalement. C'est un fil conducteur chez beaucoup de victimes.
Alors c'est un fil conducteur chez beaucoup de victimes, dans beaucoup de lieux aussi, hein, puisque tous ces lieux qui ont été visés ce 13 novembre, ils se sont relevés et les cafés ont rouvert, le Bataclan, une fois réhabilité, a repris sa programmation musicale.
Le Carillon, le Petit Cambodge, à la Bonne Bière, le Comptoir Voltaire, la Pizzeria, la Cosa Nostra, il faut les
effectivement. Et le Stade de France continue à accueillir des matchs. Et ça dit tout ça. Après, il ne faut pas non plus oublier, et je pense que ça va être l'un des enjeux de ces 10 ans, que même s'il y a le fait de se redresser, et si c'est une volonté, j'ai l'impression, de toutes les victimes que j'ai eu l'occasion, qu'elles soient endeuillées, survivantes, blessées, traumatisées, parce que chaque chemin est différent, c'est un chemin qui n'est jamais linéaire pour personne et qui a des à-coups. Vous parliez d'aller-retour. On peut aller vers un mieux, malgré tout. Il y a des moments qui restent très difficiles et il y a encore des personnes qui, avec toute l'énergie qu'elles mettent et toute la volonté de s'en sortir, sont encore dans des situations très douloureuses, qu'elles soient physiques ou psychiques. Aujourd'hui, 10 ans après, ça va être un des enjeux de notre société que de savoir qu'on tourne forcément une page, et sans doute que c'est nécessaire et sain, mais que tout le monde n'en est pas au même stade dans son chemin de reconstruction.
Ce que vous m'avez dit aussi, Grégory Rebenberg, en préparant cette émission, c'est ce lieu, on l'a rouvert, mais au fond, un peu seul avec nos amis, avec nos proches. Mais on aurait aimé un peu plus de soutien de l'État.
Pas un peu plus du soutien. Enfin, ouais. En tant que citoyen et républicain convaincu, si j'ose dire, j'étais extrêmement surpris que l'État ne se pose pas la question de dire, tiens, c'est nos lieux de vie, de spectacle, de fête qui ont été touchés, ce qui nous représente pleinement, nous, Français. Là où on se retrouve, je pensais que l'État allait se préoccuper de savoir que ces lieux, est-ce qu'ils allaient bien réouvrir et toujours rester des lieux de vie. Et je suis même étonné que cette question n'ait tout simplement même pas existé. Voilà.
Oui. Il y a eu cette aide financière.
Alors ça, c'est autre chose. Hein. C'est-à-dire qu'en parallèle, et ça n'a rien à voir, et je suis là pour dire que merci, donc je ne vais pas dire le côté folklorique, mais oui, j'ai eu une indemnité de la mairie de Paris. Merci et du fond du cœur à la mairie de Paris, car strictement rien n'est prévu dans nos textes pour être indemnisé si on a un attentat. Donc vraiment, il y a eu 50 000 euros, donc c'est loin d'être neutre. Surtout moi, comme je vous dis, j'ai fait le choix non pas de réparer. L'assureur a été quand même sympa, parce que un assureur est là pour réparer. Moi, j'ai fait le choix de détruire et de recommencer. Ouais. Voilà. Donc, je me suis débrouillé avec moi. Et donc, merci à la mairie de Paris. Merci également à la Fondation de France qui m'a écrit, donc, à participer aussi un petit peu sur l'œuvre que vous avez eu la gentillesse de signaler tout à l'heure. Et également à Monsieur Anonyme qui, le jour de la réouverture de la Belle Équipe, a déposé une enveloppe avec 100 euros d'espèces en mettant pour la Belle Équipe. Mmh. Et malheureusement, il n'y avait pas un prénom, si montant. Comme ça, je peux au moins le remercier.
Il est remercié
voilà.
Via les
ça ondes, m'avait énormément touché.
Via les ondes de France Inter. Voilà. Alix Poisson, comment on se saisit de ces histoires quand on est, comme vous, comédienne? Est-ce qu'il y a eu de la prudence, de la crainte au moment de se glisser dans la peau de Marie qui était au Bataclan, parce que cette histoire, vous habitez tout près d'ici, forcément on a tous été pétrifiés, bouleversés par ce qui s'est passé, et là il faut le jouer.
Oui bien sûr, au départ il y a forcément pas de la peur, pas de la crainte, parce que je connaissais très bien le travail du réalisateur Jean-Xavier de Lestrade, donc je savais que ça serait toujours à un endroit de profond respect et de délicatesse, et qu'il y aurait, je sais pas comment dire autrement, une charte éthique que tout le monde respecterait pour raconter cette histoire bien particulière. C'est celle des potages, ouais, qui ont été pris en otage.
Les potes otages
qui ont été pris pendant 2h30. Donc, de la
ça
peur...
Ça vous fait rire, Grégory Rebenberg, ouais.
Bah ouais, c'est chouette comme nom quand même. En plus, ils sont auto-baptisés, donc c'est la classe. Non, mais un sentiment de responsabilité quand même grand, forcément, parce que voulant être au plus près de la vérité, tout en sachant qu'on ne pourra jamais la rejoindre vraiment, parce que on a beau essayer de s'en approcher dans le jeu, évidemment, il y a quelque chose qui est impossible à rejoindre. Mais une grande responsabilité, et aussi, je dois dire, pour ma part, je me suis sentie très honorée de la confiance que nous ont fait les potages parce que ils ont tous accepté que cette série existe et donc ils nous ont aussi fait confiance à nous les acteurs et c'est pas rien quoi. Voilà.
Le Bataclan, justement, il n'est pas très loin d'ici. Dans le 11e arrondissement de Paris, il faut suivre la rue de Godefroy Cavaignac, qui est juste devant nous, se retrouver place Léon Blum, c'est la mairie du 11e, puis longer le boulevard Voltaire, le Bataclan est là, juste à gauche. Et dans le square, au milieu du boulevard, il y a une plaque sur laquelle sont inscrits les noms des 90 personnes qui ont été assassinées par les trois terroristes français ce soir-là, 90 le soir du 13, et puis deux qui se sont ensuite donné la mort. J'ai retrouvé à cet endroit-là précisément l'historien Denis Péchanski, c'était il y a quelques jours. Qui est-il ? C'est le responsable du programme 13 novembre. Question qu'il se pose, comment évolue la mémoire des Français face à cet événement ? Alors, il travaille avec les rescapés, avec leurs familles, mais ses équipes font aussi des sondages sur des panels beaucoup plus larges de Français. Voilà ce que Denis Péchanski nous dit sur cette mémoire aujourd'hui.
Au début, à la question qu'on pose, quels sont les lieux du 13 novembre ? On nous parle d'abord le Bataclan, exactement. Ensuite, on nous parle à moindre niveau, mais quand même à niveau élevé, des terrasses et du Stade de France. Deux ans plus tard, c'est le Bataclan, tout seul. Ou bien, réponse floue, Paris, un peu plus bas. Et il y a effondrement des références au Stade de France et aux terrasses. Et ça, ça a aussi des conséquences sur les personnes, sur les rescapés, sur les endeuillés, parce que c'est la double peine. Non seulement ils ont souffert ce qu'ils ont souffert, mais en plus, ils ont bien le sentiment, ils n'ont pas besoin de nos sondages pour savoir qu'ils sont en train d'être oubliés de la mémoire collective. Or, cet environnement social est décisif pour les reconstructions individuelles. C'est le cas de tous les événements extraordinaires. Le cerveau est économe, en quelque sorte. Il garde en mémoire ce qui suffit à expliquer l'événement dans sa complexité. De même que pour le 11 septembre, les Français, vous les interrogez, ils vous parlent de quoi ? Des tours. Ils vous parleront pas du Patagone et encore moins de l'avion qui s'est crashé à Shanksville en Pennsylvanie. Donc on a le même mécanisme là qui joue. Il n'y a pas de mémoire sans oubli. Elle se concentre, elle se condense sur ce qui fait le plus sens. Et le procès va avoir un rôle très important aussi pour l'unification de cette mémoire. Procès historique qui dure 10 mois. De fait, c'est un modèle cette enquête, c'est un modèle ce procès. On donne les clés. Il y a un travail extrêmement important qui est fait pour construire un récit à partir de ces sources. Et on constate que le complotisme est marginal. C'est le fait de quelques sites islamistes, mais vraiment à la marge.
Et quand vous interrogez les Français, année après année, vous vous rendez compte que ceux qui éprouvent le plus de peur sont ceux qui, au fond, sont le plus éloignés personnellement des lieux de ces attentats ou des gens qui en ont été victimes.
On le repère à travers l'autre volet de notre travail, c'est-à-dire les entretiens qu'on mène du plus proche au plus lointain de l'événement. 1000 personnes quand même. Le plus proche, ce sont ce qu'on appelle le cercle 1, c'est-à-dire les personnes qui sont directement exposées. Jusqu'au cercle 4, qui est le plus lointain, on a 3 villes en région, Caen, Metz, Montpellier. Et effectivement, quand on analyse le vocabulaire de leur témoignage, on s'aperçoit que le mot « peur » est surreprésenté dans les 3 villes de province, comme le mot « guerre » d'ailleurs, alors qu'il est sous-employé dans le cercle 1. Et ceux qui étaient à distance ont trouvé les mots qui illustrent cette agression incroyable qu'a subi le pays.
Voilà, Denis Péchanski, rencontré il y a quelques jours devant le Bataclan, co-responsable du programme 13 novembre. Je vous recommande le livre qui détaille ses travaux, Faire face les Français et les attentats du 13 novembre. Elisabeth Pelcé, vous qui dirigez la mission de préfiguration du futur musée mémorial du terrorisme, réaction à ce que vient de dire, alors on parlera de la mémoire et des lieux de mémoire dans un instant, mais d'abord, l'importance du procès. Très peu de complotisme autour de la mémoire du 13 novembre.
Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Denis Péchanski. Il y a très peu de complotisme, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, hein, comme les États-Unis, par exemple. Il y a deux choses pour moi qui ont fait que le complotisme n'a pas prospéré. La première, c'est vraiment la parole de François Molins, très régulière. Une parole qui
procureur,
était procureur pendant les attentats
c'est lui
de
qui
2015.
Communique aux Français, on s'en souvient.
Exactement,
tous.
Et il communique régulièrement. Il communique sereinement, quand bien même la situation est terrible. Il donne des faits il rassure quelque part les Français sur le sérieux de l'enquête qui va être menée. C'est pas si évident de réagir à chaud. Je le connais très très bien et je sais que pour lui, ça a été aussi un effort considérable d'adapter le ton qu'il allait employer, car il était une référence pour tous ceux qui l'écoutaient. Ça, c'est pour moi, je dis souvent qu'il est l'artisan de la cohésion nationale. Et la deuxième chose, c'est que le procès, qui dure effectivement 10 mois, là encore, c'est pas dans tous les pays, et même dans les pays européens, il n'y a pas forcément de procès qui soit donné à voir de cette manière. La place qui est donnée aux parties civiles, la place qui est donnée aux témoignages, moi j'y vois trois choses très importantes. D'une part, pour l'ensemble des victimes, c'est la mise en cohérence de leur récit. La deuxième chose, c'est que l'enceinte judiciaire sort complètement de l'enceinte du tribunal, du palais, et que toute la société y est mise à contribution.
Bart Vissen, vous êtes rendu à ce procès. Il a été important pour vous ?
Je m'y suis rendu avec Grégory, ouais. D'ailleurs, encore. Et je pense que lorsque j'ai pris la décision d'aller à ce procès, je ne savais pas vraiment ce qui m'attendait. Ça a été, je pense, une des choses les plus dures qui m'ont été amenées de vivre, après, hormis évidemment les attentats. Il était nécessaire pour moi à ce moment-là de témoigner de ce que j'avais vécu au milieu de discours de toutes ces personnes qui venaient témoigner elles aussi. Peut-être d'une certaine manière pour tourner une page, arriver à se dire que en l'exprimant de cette manière-là avec ceux qui avaient commis ces actes-là, en tout cas qui avaient contribué à tout ça, c'était vraiment pour moi, de manière symbolique, une possibilité de tourner une page.
Alors, il y a plusieurs lieux, je l'ai rappelé, de ces attentats. Le Stade de France, et d'ailleurs, je précise qu'hommage sera rendu jeudi prochain, avant le match France-Ukraine, au Parc des Princes, à la victime Manuel Diaz qui a été tué ce soir-là, mais aussi hommage au vigile qui a repoussé l'un des terroristes Salim Tourabali, les terrasses aussi et le Bataclan. Et Grégory Rebenberg, vous m'avez dit parfois les gens ont tendance à dire les attentats du Bataclan, et c'est ce que nous dit Denis Péchanski, parce que c'est le lieu qui a cristallisé la mémoire et on ne s'en rend pas forcément compte, mais pour les autres victimes c'est extrêmement dur à vivre.
Alors effectivement, pour faire court, il faut que les professionnels comme vous, les médias ou les gens qui ont la parole publique comme les politiques ne soit pas, faut la même sérénité que Monsieur Molins, c'est-à-dire que faut pas être dominé par nos émotions. Effectivement, ouais. Ce soir-là, la vague la plus haute en termes de nombre de morts et dans la dramaturge, c'est le Bataclan. Mais effectivement, j'ai déjà écrit un de vos confrères que j'apprécie beaucoup. J'écris à un homme politique qui s'est exprimé hier à l'Assemblée nationale, et c'est vrai d'entendre que la France a payé un très 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 lourd tribut. Point, le Bataclan, c'est ensevelir nos morts et les tuer à nouveau. Donc c'est, même après 10 ans, ça fait mal. Alors c'est vrai que ça concerne qu'un certain nombre de personnes, mais c'est quand même beaucoup de Français. Donc faut faire attention de dire les événements du 13 novembre, en tout cas quand on veut parler de ce soir-là et non pas spécifiquement du Bataclan, bien sûr.
Alors cette histoire, Grégory, vous l'avez racontée dans ce livre, Une belle équipe. Aux éditions Héliopole. D'autres ont raconté leur histoire dans des livres. C'est le cas d'Aurélie Sylvestre, qu'on suit depuis le début de la semaine dans ce 13-14. Elle vient de publier Déplier le cœur, c'est aux éditions du Seuil. Elle a perdu au Bataclan le 13 novembre 2015 son compagnon Mathieu Giroux, qui y a été assassiné. Ils avaient tous deux un petit garçon qui avait 3 ans à l'époque, qui s'appelle Gary. Et Aurélie attendait une petite Thelma qui est née un petit peu plus tard, au printemps 2016. Charlotte Piré, c'est vous qui avez rencontré Aurélie. Je vous donne la parole dans un instant. D'abord, je voudrais qu'on écoute son dernier témoignage de la semaine. Aurélie Sylvestre est en prison, où elle a rencontré il y a peu des détenus lourdement condamnés pour des faits de terrorisme. 3 heures de discussion qu'elle vous a raconté.
En fait, la veille, au soir, je me suis vraiment demandé ce que j'étais en train de faire. Je suis allée rencontrer des gens très radicalisés, en fait. J'ai quand même beaucoup été dissuadée par mes proches, par des amis. Mon père m'a quand même dit d'arrêter de faire n'importe quoi. Donc j'avais quand même ce truc de me dire, mais est-ce que, en fait, peut-être je fais n'importe quoi. Quand je suis arrivée dans la salle, c'est donc dans la bibliothèque de la prison, il y a un détenu qui était en train de me faire un café. Il y a un autre détenu qui s'est approché de moi avec un petit plateau avec des bugnes qu'il avait préparées. Donc c'est tout bête, mais ça a une importance capitale en fait de se sentir reçu et attendu. C'était 8 hommes, en fait, il y en a 7 qui sont venus, il y en a un qui a pas souhaité venir. J'avais peur d'être impressionnée par le côté un peu stéréotypé du physique qu'on attribue aux gens condamnés pour terrorisme. On m'avait prévenu qu'ils avaient de la barbe, quoi, tout simplement. En vérité, ce que j'ai compris immédiatement, c'est que ils allaient être extrêmement précautionneux avec moi. Et c'est quelque chose qu'ils ont dit assez vite, de dire qu'ils étaient assez impressionnés de me voir là, en fait. J'ai été étonnée par la qualité d'écoute, par la qualité de l'échange aussi. Et d'ailleurs, je leur ai dit, en fait, parce que à un moment donné, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Et je leur ai dit cette chose étrange qui était que, en fait, moi, j'avais juste besoin de savoir que c'était possible qu'on discute. Et ça l'a été, en fait. Parce que, encore une fois, je pense que nos histoires, il faut qu'on les raconte et que l'endroit où peut-être il faut le plus les raconter, c'est l'endroit où on les raconte pas et les raconter à ceux qui créent la situation sans jamais avoir accès à ce qui se passe dans la vie de quelqu'un qui est impacté vraiment par les actes, quoi. C'est des gens qui vont aussi sortir un jour. Ils sont jeunes, en fait, hein. Donc il faut quand même maintenir le lien, quoi. Et qui mieux que nous pour le faire, en fait? C'est mon expérience, c'est mon chemin, c'est mon histoire. Et il y a probablement plein de gens qui vont trouver que c'est ahurissant. Mais moi, en tant que moi, ça m'a fait un bien fou, en fait. Je suis sortie en me disant que c'était absolument nécessaire de le faire. Et puis aussi, ce truc de se sentir un tout petit peu utile, c'est pas mal, en fait. Parce que être victime, c'est quand même principalement être figé dans quelque chose d'assez difficile.
Aller jusqu'à rencontrer en prison des détenus condamnés pour des faits de terrorisme. C'est ce que fait Aurélie Sylvestre, qui a perdu son compagnon au Bataclan. Témoignage très fort qui peut déranger aussi Charlotte Piré. C'est vous qui l'avez rencontré. Il y a d'autres victimes du 13 novembre qui font ça?
Oui, alors elle le dit, hein, c'est un chemin assez personnel, mais elle n'est pas la seule à le faire parce que... Et vous parliez tout à l'heure de l'importance du procès. Le procès a beaucoup suscité ces changements-là ou ces envies-là, en tout cas chez certaines victimes. Pour tout vous raconter, j'ai revu Aurélie hier et on reparlait à nouveau de ça. Elle me disait, je crois que c'est peut-être quand même plus une démarche d'endeuillé de quelqu'un des personnes qui ont perdu quelqu'un lors de ces attentats que de survivants, c'est-à-dire ceux qui ont été déjà eux-mêmes au contact avec les terroristes. Quoi qu'il en soit, ce sont des chemins qui sont très personnels, mais il existe ces démarches-là, elles existent ici, elles existent aussi à Bruxelles. Et il se trouve que dans l'interception qui sera diffusée ce dimanche sur France Inter, on accompagne aussi des survivants du Bataclan à Bruxelles auprès de victimes des attentats du 22 mars, cette fois qui vont aussi en prison. En fait, il y a cette volonté de comprendre, je crois, cette volonté, comme elle le dit Aurélie, de savoir qu'on peut se parler parce que désormais, il y a un après auquel certains pensent, c'est-à-dire comment on refait société après ça.
Comment on fait société, comment on se parle, elle va jusque là, la démarche aussi dans la transmission de la mémoire, c'est de voir cette histoire qui peut devenir des livres, qui peut devenir des chansons, qui devient de la fiction à l'écran. C'est la série Des Vivants diffusée sur France 2 depuis lundi et disponible sur la plateforme France.tv depuis plusieurs jours. 8 épisodes, réalisation Jean-Xavier de Lestrade, le destin des otages du Bataclan devenu ami au fil des jours, au fil des mois. Alix Poisson, c'est vous qui incarnez le personnage de Marie qui est avec nous également aujourd'hui. Quelle place laisser pour la fiction quand on a une histoire aussi réelle en face de nous? C'est quand même très spécifique pour une comédienne.
Oui, bien sûr. Alors après, la série est particulière parce que Jean-Xavier de Lestrade et son co-scénariste ont vraiment fait le choix que ça soit le récit des potages qui constitue la matière première de la série.
On part de là.
On part de là, c'est-à-dire qu'ils ont eu, Marie pourra en parler mieux que moi, ils ont eu des très longs entretiens, des journées entières chacun. Et c'est à partir de ce qu'ils ont raconté qu'ils ont décidé d'écrire ce scénario. Et il fallait absolument l'accord de tous les potages. Donc, d'une certaine façon, on va à l'encontre d'une dramaturgie classique, parce qu'effectivement, il n'y a rien de spectaculaire, entre guillemets. C'est vraiment raconter la reconstruction sur 8 ans, jusqu'à un peu après le procès de ces personnes, avec le chemin, comme vous le disiez, très très personnel de chacun et comment on peut être 7 fois à terre et 8 fois debout, mais avec des à-coups, des rechutes, certains qui vont aller entre guillemets mieux plus vite et d'autres pas du tout. Et comment en fait, c'est le principe hein, de survivre à un traumatisme, c'est qu'il y a absolument aucun mode d'emploi et qu'on fait comme on peut et en étant le plus entouré possible. Voilà.
Marie Orcastagnou, est-ce que vous avez eu peur d'être un peu dépossédée de cette histoire, au fond, qu'elle ne vous appartienne plus ?
Non, parce que j'ai été très motivée par le projet. Donc à partir du moment où...
Pourquoi vous étiez très motivée par le projet ?
Alors, à titre personnel, j'ai, il y a très longtemps, essayé d'être comédienne. Et la perspective de renouer, même de manière extrêmement périphérique, avec ce domaine-là, me stimulait très fortement. Donc, à partir du moment où on avait donné notre accord au producteur de la série, je me suis investie à fond dans le projet et j'ai vraiment donné le maximum à Jean-Xavier et Antoine, le scénariste, pour qu'ils aient toute la matière exploitable et pour
mais parce que je pense aussi que c'est ça peut être une des vertus de si c'est bien fait et s'il y a un vrai point de vue et là le point de vue était très très précis de la part de Jean-Xavier de Lestrade, je pense que ça peut être aussi une des vertus de la fiction, c'est-à-dire que il y a un moment où ça aurait pas été possible parce que ça aurait été indécent et ça aurait été obscène, sauf que là lui il a toujours dit que à partir du moment où le procès était passé et où donc toutes les parties civiles avaient pu déposer, et ça devient à ce moment une histoire absolument collective, à partir du moment où ça a été fait, la fiction, comme elle l'a toujours fait dans d'autres pays, peut s'emparer de cette histoire à partir du moment où il y a vraiment un point de vue. Et à partir du moment où il y a ça, en fait, il y a quelque chose qui peut être, alors avec beaucoup d'humilité, hein, on va pas réparer tout un traumatisme, mais il y a quelque chose qui peut être quand même réparateur. Pourquoi ? Et je m'appuie sur quelque chose que Arnaud, le mari de Marie, a dit, parce qu'ils étaient tous les deux dans le couloir quand même. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où ça crée le fait que ce soit incarné par des comédiens et qu'il y ait eu des choix narratifs, ça met une légère distance qui fait que ça peut être à nouveau entendable et à nouveau regardable. Et le mari de Marie a dit à une des projections, et on était tous bouleversés, il a dit, écoutez, c'est la troisième fois que je le vois, et en fait, c'est très étonnant, parce que j'ai l'impression que l'histoire se décolle un tout petit peu, elle sera toujours dans la chair, mais elle se décolle un peu de moi, elle va vers les autres, c'est les autres qui vont la raconter, et du coup, il a dit, ça m'allège.
Ça m'allège.
Voilà.
Il y a une question que pose cette fiction, c'est comment on parle aux enfants. Comment les enfants se saisissent de cette histoire. Des enfants qui vont grandir ou naître ou qui sont nés depuis 2015. Et puis il y a les enfants aussi des victimes, les vôtres. Marie Orcastagnou, est-ce que c'est aussi un sujet auquel vous avez été sensible ?
Oui, très rapidement. Dès le soir même, je me souviens avoir posé la question. On était à l'hôpital Pompidou et j'ai dit à un jeune interne qui était là, j'ai dit mais comment... Comment on va faire avec nos filles ? Comment on va leur parler ? Qu'est-ce qu'on va leur dire ? Alors Nina, la plus grande, avait 5 ans et demi. Zoé avait 18 mois. Bon, Zoé, elle est un petit peu passée à côté. Et je me suis dit, je vais faire comme si de rien n'était avec elle parce que l'impact était moindre. Mais Nina, effectivement, très rapidement, il a fallu lui dire de manière un peu schématisée qu'il y avait eu des méchants, qu'ils avaient voulu nous faire du mal, qu'on aurait pu... y rester, mais que voilà, on avait eu beaucoup de chance et que tout le monde n'avait pas eu cette chance-là.
Grégory, votre fille Tess avait 8 ans il y a 10 ans. Comment est-ce qu'elle va aujourd'hui ?
Elle va correctement. C'est pas simple parce qu'elle a 18 ans et puis qu'elle a, elle a grandi sans maman, une maman assassinée par balle. Donc, c'est déjà élever un enfant à deux, c'est compliqué. Alors, tout seul, quand on n'est pas très doué, c'est pas terrible, mais on va y arriver. Voilà.
C'est une vigilance permanente ?
Oui, évidemment. Enfin, ça, c'est toute la vie, hein, un enfant. C'est... Mon père m'a dit, je serais un homme le jour où il serait mort. Quoi. Voilà. C'est toute la vie, un enfant.
Charlotte Piré, il y a 1300 enfants qui sont victimes par ricochet, c'est ça ?
Oui, alors, effectivement, on estime à 1300 le nombre d'enfants qui ont été, d'une manière ou d'une autre, touchés.
certains indirectement parce qu'ils ont perdu un parent comme Tess, d'autres parce qu'ils ont vu leurs parents revenir traumatisés aussi. C'est des parents différents qui sont rentrés à la maison, et je veux pas parler à la place de Marie, mais c'est aussi le vécu de ces enfants-là. Et c'est des enfants, moi j'ai eu l'occasion, c'est un sujet que je trouve, voilà, qui me tient
particulièrement à cœur. C'est l'un des épisodes du podcast qui est disponible, que vous avez réalisé avec Sarah Guibaudot. Ce que le 13 novembre nous apprend.
Ce que le 13 novembre a changé en nous. Vous y étiez presque, et il y a Delphine Evenou dedans aussi,
choses,
mais,
voilà.
Mais vous y étiez. Effectivement, le cinquième
mais
épisode.
Il y a un épisode qui est consacré aux enfants.
Consacré aux enfants. Et il y a une chose que moi j'ai réalisée en tournant cet épisode et en rencontrant donc des enfants qui sont à la fois endeuillés, certains qui ont leurs parents revenus traumatisés, et même particulièrement le témoignage de Louis qui avait 5 ans. Et était à l'intérieur du Bataclan avec sa maman et sa grand-mère. Tous ces enfants partagent une chose, c'est qu'il y a quand même une forme de solitude dans la construction de ces enfants, parce qu'en fait, ce qui a été créé, les collectifs qui ont eu lieu ici à la Belle Équipe, vous le disiez, mais aussi dans les associations de victimes, ce besoin de se retrouver les uns avec les autres, les potages, ça dit ça aussi, en fait, les enfants ne l'ont pas eu.
Et
s'ils ont été très entourés et protégés par leurs parents, la question n'est pas du tout de remettre ça en cause. En fait, ce lien-là, ces enfants-là ne l'ont pas eu, et ils ont dû grandir avec cette histoire un peu seule.
Elisabeth Pelletier, dans le futur musée mémorial du terrorisme, il y aura un espace famille.
Oui, tout à fait. Il y aura un parcours famille, en fait, avec des moments spécifiques où les parents et les enfants, parce qu'on n'imagine pas des enfants seuls dans ce lieu, pourront avoir des explications, poser des questions, être interpellés à leur niveau. En fait, la présence des enfants, elle est sous de multiples formes. Déjà, il y a des enfants qui ont dessiné énormément au moment des attentats du 11 septembre, et on a récolté tout le fonds qui avait été envoyé à l'ambassade des États-Unis à Paris. Il y a aussi des enfants qui ont été victimes du traumatisme, par exemple à Nice, qui ont fait des objets qui sont extrêmement parlants. Une petite fille qui est passée sous le camion avec sa mère, qui a fait un masque dans lequel on voit des yeux par dizaines, et qui sont en fait le témoignage de ce que sa maman a vu le camion arriver. Et comme sa mère a perdu une partie de sa vision, elle craint qu'en ne voyant plus, elle ne puisse plus être protégée du danger. Et ce masque qu'elle a elle-même réalisé, on le voit actuellement dans la campagne d'affichage des objets de nos collections sur les grilles de l'hôtel de ville. Donc en fait, les enfants, c'est un public aussi pour le musée qui sera très important.
Ça, c'est la perspective 2030 pour l'ouverture de ce musée. Il y a des perspectives, on l'a dit, pour la Belle Équipe, avec ce passage de relais, passage de témoin entre Grégory et Barthes. Et puis, vous avez aussi ces études de psychanalyse, Barthes Vissen, que vous allez mener en même temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important pour vous de poursuivre ces études et de peut-être devenir psy un jour?
Déjà, le choix de devenir psy un jour, c'est quelque chose qui m'est venu aussi un peu naturellement. J'ai compris il y a peu que le métier que l'on fait dans la restauration, c'est un métier de service. Et c'est un métier où les gens viennent pour se retrouver dans un moment où ils sont suffisamment bien pour peut-être à la fois partager un bon moment, poser leurs bagages, puis repartir. Et en réalité, moi, ça m'a beaucoup aidé, la psychanalyse, la psychologie. J'ai réussi à me reconstruire, ça a mis du temps. Et en comprenant aussi que finalement, il était important pour moi de ne pas être dans un déni de la réalité de ce que j'avais vécu, et aussi de peut-être transformer le statut de victime ou de survivant que l'on a tendance à nous attribuer, s'attribue aussi, d'arriver à transformer ça pour en faire une énergie qui permettrait, pour ma part, d'aider de nouveau des gens qui peut-être rencontreraient cette difficulté à avancer ou se construire.
Il nous reste quelques secondes pour conclure ce 13-14 ensemble, avec un choix que vous avez fait ensemble, Grégory et Barthes. C'est le choix musical. Je vous ai demandé de choisir une chanson pour terminer ce 13-14.
Moi, j'avais pensé Avec le temps de Léo Ferré, mais Barthes n'a pas apprécié.
Il a mis son veto.
Donc il a mis son veto. Il a une bien meilleure idée que moi, et donc je vais le laisser vous expliquer tout ça.
Tout le monde a reconnu Les copains d'abord.
Ouais. Je vais faire très court parce que pour le coup, je serai très ému. C'est une très très belle chanson qui parle d'une équipe, de tempête que l'on traverse, un trou béant dans l'océan, mais qui finalement parle avant tout de résilience et le fluctuat nec mergitur qui veut dire toucher mais pas couler. On peut commencer, on peut continuer à avancer.
Merci Grégory, merci Bart pour ce choix. Fluctuat nec mergitur s'écrit juste au-dessus sur les panneaux, un petit peu partout dans Paris, ici rue de Charonne, aussi avant les commémorations du 13 novembre dans 6 jours maintenant. Merci à tous les deux, c'est l'heure des anniversaires avant les remerciements. C'est les 50 ans de Marie, bon anniversaire à vous Marie. C'est l'anniversaire aussi du trou gascon.
Exactement.
L'un de vos restaurants, Grégory, qui fête sa première année d'existence. C'est dans le 12e arrondissement. Et c'est Ruthen.
Il est né en 1974.
Il est né en 74. Voilà, donc on avait les deux anniversaires, c'est fait. Nos remerciements. Moi, je vais remercier l'équipe de France Inter et puis Grégory remerciera l'équipe de la belle équipe. Gilles Gallinaro, Fred Kérou pour la réalisation. Éric Gérard, notre chargé de production. Cécilia Arbonin, notre rédactrice en chef. Camille Poux-Jalaguier, notre attachée de production. Marie Potier, Loïc Frapsos, Gilles Gallinaro et Frédéric Kérou. Je les ai déjà cités. Et l'équipe de la belle équipe aujourd'hui?
Eh bien, en cuisine, nous avons notre chef Elliot qui travaille avec Jay. Et au bar, nous avons Kevin et en salle, Anaïs. Et voilà.
Merci à tous d'avoir été avec nous en direct de la belle équipe aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Les dernières infos dans un instant.